d'emploi. Mode d'emploi.
Fréquence Paris Pluriel, vous êtes sur l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et aujourd'hui, vendredi 29 janvier, nous sommes avec notre invité Frédéric Vial, qui est essayiste et surtout dans des domaines de l'économie, mais qui va aujourd'hui intervenir avec nous sur un sujet brûlant, depuis peut-être plusieurs siècles, celui de la laïcité. Mais avant d'aborder ce sujet, quelques chroniques d'actualité que Jean-Marc nous a concocté. Et le premier, vous allez voir, c'est original, c'est Covid folie numéro 28.
Alors, pendant que nos journalistes d'élite passent leur temps à interroger Georgette, Morissette et Robert au fond d'un EHPAD pour savoir si la vaccination s'est bien passée, le gouvernement, lui, ne chôme pas en relançant le dossier assurance chômage, le dossier retraite, et en continuant de supprimer des postes dans l'éducation, mais aussi des lits dans les hôpitaux en plein Covid, et tant d'autres choses. Décidément, nous avons un gouvernement fantastique.
Fantastique, mais c'est le gouvernement français dont tu parles. Et là, tu vas nous parler du gouvernement, je crois, chinois. La chronique s'intitulant « Nuit de Chine ».
Alors, le Covid vient de Chine et sert aussi les intérêts de la Chine, qui peut discrètement écraser la révolte de Hong Kong ou accélérer le massacre des Ouïghours en ouvrant quelques camps supplémentaires. La Chine de Xi Jinping vient de mettre son meilleur ennemi, ou plus exactement son idiot utile, avec le départ de Trump. Mais ce n'est pas pour autant que les appétits impérialistes de l'Empire du Milieu vont s'arrêter. Après une série d'escarmouches au nombre incertain de victimes et en dépit de discours de désescalade, comme on dit maintenant, la Chine et l'Inde envoient de l'artillerie lourde de part et d'autre de leurs frontières communes. Un potentiel conflit opposant deux États dépassant le milliard de citoyens, ça fait envie. La Chine s'amuse encore à violer à répétition l'espace aérien de Taïwan, pratiquement tous les jours. Il est vrai qu'elle considère que cet espace aérien est le sien, puisqu'elle considère que Taïwan est une partie intégrante de la Chine. Ce qui provoque l'arrivée d'une escadre américaine sur zone, re-youpi. La Chine encore vient de signer un grand accord de libre-échange avec la plupart des acteurs économiques asiatiques, auxquels se sont joints la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Encore youpi, et décidément, c'est vraiment très communiste. Bref, si vous ne croyez pas que le monde d'après sera bien meilleur que le monde d'avant, c'est que vous êtes gravement dépressif et complotiste.
Alors, le monde d'après, il a d'autres soucis que le Covid. Il y a celui qui remplit la presse régulièrement. On traite certains d'islamo-gauchistes, certains autres d'oublieux de la cause sociale. En tout cas, dans ce débat, un mot est parfois appelé au devant de la scène, c'est celui de laïcité. Et la laïcité, c'est une notion qui transcende le XXe siècle peut-être, mais qui a surtout été créée au début de ce siècle, et du XXe siècle. Et Jean-Marc va prendre sa casquette d'historien pour nous expliquer ce qu'est la laïcité pour lui.
Alors déjà, en guise d'introduction, je vais vous donner quelques chiffres qui sont assez édifiants par rapport au nombre de fois où on nous emmerde avec la laïcité et surtout avec les problèmes religieux. D'après donc une enquête très sérieuse, il y a en France seulement 37% de croyants, 31% de non-croyants et athées, 15% d'agnostiques et 10% qui n'en ont rien à fiche. Donc une écrasante majorité de gens qui sont soit carrément hostiles à la religion, soit qui n'en ont rien à faire. 14% des Français ont une pratique religieuse. Pour 15% seulement d'entre eux, ils estiment que c'est important. Donc déjà, ça met bien les vraies relations donc, autour de la religion en perspective et en lumière. Alors, si on revient sur l'idée de laïcité, d'abord, la laïcité, c'est une notion qui est finalement assez simple dans sa définition et sa mise en œuvre, si l'on est clair. Or, beaucoup de gens essayent justement de rendre les choses obscures, sans doute parce qu'ils ne veulent pas de cette chose claire et qui fonctionne très bien. Il n'y a finalement de débat dans notre pays que parce que certains groupes veulent détruire la laïcité, d'une part, et parce que d'autre part, nous avons des dirigeants politiques qui sont aussi lâches qu'ambigus. Lâcheté et ambiguïté qu'on peut attribuer d'entrée soit à l'ignorance pour certains, soit à des intérêts peu présentables et peu défendables pour d'autres, soit encore à une volonté de manipulation malhonnête de la notion à des fins électoralistes. Mais avant de rentrer dans les origines de ces dysfonctionnements, il faut d'abord revenir aux sources elles-mêmes du mot comme de la notion de laïcité. Laïque signifie simplement qui n'est pas religieux. Et donc, une république laïque n'est autre qu'une république qui n'est pas religieuse et organise la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, ce qui est de l'intérêt de tous, qu'on soit croyant ou non croyant. La laïcité peut être définie finalement en trois mots. La première, c'est la neutralité. Neutralité de l'État et bien sûr de l'école, qui est à la base de tout civisme républicain depuis la Troisième République. Ils ne doivent pas favoriser, donc ni l'État ni l'école, ni défavoriser une religion plutôt qu'une autre. L'école enseigne le fait religieux comme ouverture culturelle ou pour saisir l'importance des religions dans l'histoire des peuples, dans leur construction et leur identité. Mais l'école comme l'État ne doivent jamais prendre parti. Deuxième mot, c'est l'indépendance. Indépendance de l'État vis-à-vis des religions et vice-versa. L'État ne doit pas intervenir dans les règles religieuses d'une communauté, dans la limite où elle respecte les droits de l'homme et la loi, bien sûr. L'État ne nomme pas les religieux et n'établit pas de loi religieuse. De même, les religions n'ont pas à faire les lois de la nation et n'ont pas à se mêler des lois de la nation. Troisième terme, le terme de liberté. Liberté de conscience et liberté de culte. Chaque citoyen est libre de penser ce qu'il veut, de croire en n'importe quelle religion ou de n'en croire aucune. Chaque citoyen a comme garantie la liberté de pratiquer sa religion, notamment dans des lieux de culte dédiés, là aussi dans la limite des droits de l'homme et des lois de la République. Mais si l'on a le droit d'être contre les lois de la République, on n'a pas le droit de les violer, fût-ce au nom de Dieu. Dans notre pays, où la laïcité est inscrite dans notre Constitution, dès l'article 1, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Les lois de la République sont donc, sans aucune contestation possible, au-dessus des interprétations religieuses, ce qui garantit l'indépendance de la République vis-à-vis du religieux, l'impossibilité de mettre en place des discriminations religieuses, ou encore, pire, une théocratie. L'Église, d'avant le Concordat de 1905, une Église ayant son mot à dire dans la société, l'école et la politique, c'est fini. Le pire dans... Alors, pardon. Excusez-moi. Là, j'ai un petit problème de feuille. Alors, la laïcité est une garantie aussi pour les individus. Garantie d'indépendance et de neutralité de l'État par rapport aux religions. Elle garantit donc la liberté de conscience et de culte. En résumé, la laïcité profite à tout le monde et garantit les droits et libertés de tous. Je dis bien de tous. Ceux qui s'opposent à la laïcité combattent donc la tolérance, la liberté de conscience, l'égalité et la loi. Pourquoi le font-ils ? Tout simplement parce qu'ils veulent la remplacer par une autre loi, leur loi. Ils veulent un État religieux, une théocratie, dans lequel une seule religion aurait le droit d'exister, la leur bien évidemment, et dans lequel tous ceux qui ne pensent pas comme eux devraient être expulsés, emprisonnés ou tués. Comme nous venons de le voir, la laïcité ne nuit donc à personne, et bien au contraire, elle profite à tous. Quelles que soient les positions religieuses et philosophiques des uns et des autres, alors pourquoi certains veulent-ils détruire cette laïcité en faisant croire, en particulier, qu'elle serait une limitation intolérable des libertés, et en particulier de la liberté de culte ? Nous laisserons de côté les ignares, qui répètent des non-sens sans connaître quoi que ce soit de la réalité des textes, pour nous intéresser à ceux qui savent, ceux qui manipulent en toute connaissance de cause. Il y en a en fait plusieurs catégories. La première, ce sont des religieux, qui ont comme but ultime la théocratie ou la volonté de retrouver la possibilité d'avoir une religion reconnue comme dominante et sont donc tous bien gênés par la laïcité. En bref, d'un côté, les musulmans intégristes qui veulent imposer leur vision théocratique de la religion dans l'espace public émandent tout à fait sciemment sur la laïcité pour séduire ce qu'ils appellent leurs « frères » entre guillemets, grâce à des amalgames entre république, laïcité, racisme et autres. D'un autre côté, on trouve des groupes catholiques réactionnaires, moins médiatisés mais tout de même influents, qui rêvent de revenir au statut de l'Église d'avant le Concordat de 1905, une Église ayant son mot à dire dans la société, l'école et la politique. Le pire dans tout cela est que ceux-là même qui devraient être des ennemis se retrouvent pour mentir sur la laïcité et semer de faux débats mortifères dans notre société. Les deux se retrouvent dans une même volonté de soumettre les lois de la République aux lois qu'ils considèrent comme supérieures de leur Dieu. Deuxième partie, les politiques qui veulent utiliser le bourbier de mensonges et d'incompréhensions qui provoquent ces débats sans objet autour de la laïcité pour attirer des électeurs, soit des électeurs très religieux, soit au contraire ceux qui ont peur des religieux. On retiendra trois types de comportements politiques douteux de nature différente. Le premier, ce sont les gouvernants qui, sans être ignorants, laisse faire pour que les débats politiques de fond soient remplacés par cette mélasse afin de masquer leur politique et leurs lacunes. C'est ce qu'on peut appeler la politique des contre-feux, ce qui se double parfois d'une volonté de complaire à certains clients de la France, aux visées peu laïques, je pense notamment aux États du Golfe, qui sont de très bons clients de la France, en matière militaire et en bien d'autres matières. Deuxième type de comportement déviant politique, l'extrême droite, qui instrumentalise la laïcité pour en faire une arme anti-musulmane et raciste, position qui ravit les intégristes puisque cela apporte de l'eau à leur moulin et réciproquement. L'extrême droite et les intégristes musulmans, finalement, allant main dans la main. Troisième partie, une partie de la gauche qui, hélas, joue avec le feu, en espérant, par quelques compromissions, récupérer les voix d'une partie de l'électorat qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, de « populaire musulman », égaré par les prêcheurs de haine. Pour finir, la laïcité est donc précieuse, irremplaçable, surtout dans un pays au mélange multiple et permanent comme la France. Elle permet de vivre ensemble, en toute harmonie, tout en protégeant les libertés de tous, qui pourraient donc, honnêtement, s'opposer à un pareil trésor. Personne, sauf des malhonnêtes gens.
Alors justement, ceux qui s'opposent, on va en discuter ensemble avec Frédéric Vial, notre invité, après une petite pause musicale. Et une petite pause musicale qui va nous parler de politique, parce que bah, si on n'est pas de gauche, c'est qu'on est censé être de droite. En tout cas, c'est la logique d'Evan Pass qui nous interpelle en disant « Hey, j'ai vu ton nom sur une liste de droite ».
J'ai vu ton nom sur la liste de droite aux élections à la troisième place. J'ai cru
Mec, c'est la merde, on est vraiment en galère de thunes.
FPP achète bientôt une nouvelle table de mixage pour remplacer la console actuelle qui devient obsolète. Retrouvez le lien de la cagnotte sur rfpp.net ou sur notre page Hello Asso.
Je veux son fric, alors donnez-le-moi, bordel de Dieu.
Fric, fric, toujours parler de fric.
C'est mon argent.
Fric, fric, on a besoin de fric.
Alors soutenez la voix des sans-voix.
106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et le sujet du jour, c'est donc la laïcité. Alors la laïcité, elle est née, on va en reparler une minute, d'une partie des penseurs des Lumières, penseurs fondateurs de la République, une pensée qu'on aime mettre à gauche souvent, et une certaine pensée qui est née d'un anticléricalisme catholique au début du XXe siècle. Et pourtant, aujourd'hui, ces mêmes personnes, dont vous êtes peut-être vous-même auditeur, pensant en faire partie, on vous interdisait des phrases du type « on pendra le dernier curé avec les tripes du dernier patron ». C'était un slogan de manif. Jusqu'aux années 90, on le trouvait placardé, affiché systématiquement. On ne le voit plus. Progressivement, il a disparu des manifs. Alors, est-ce que c'est parce que c'est un sujet, la laïcité, dont on ne parle plus? Ça n'a pas l'air, hein, vu qu'on en parle en longueur de temps dans les médias. Alors, à quand le prochain slogan de manif qui dira « on pendra le dernier imam avec les tripes du dernier curé » Est-ce que ça va être pensable à terme? Alors, on peut se poser la question de où sont passés ces militants laïcs, fondateurs de la République, ce qu'on a envie de placer à gauche, ceux qui, on va dire sans arrière-pensée politicienne, contrairement à ce que Jean-Marc nous introduisait tout à l'heure, ont envie de préserver cette laïcité fondatrice de la République française. Alors on peut peut-être faire un petit retour historique pour commencer ce débat, encore une fois avec Jean-Marc, c'est finalement cette notion de laïcité, si on parle sur un point de vue historique, tu l'as fait remonter, Jean-Marc, carrément des Lumières, c'est-à-dire des penseurs d'avant la Révolution.
Alors, si on veut vraiment parler de laïcité, il faut attendre la fin du XIXe siècle. Mais il y a des prémices très très précoces. Dès le Moyen-Âge, on a des penseurs qui se rapprochent de l'idée de laïcité de manière insidieuse en parlant de tolérance. La tolérance, c'est l'un des mots clés du siècle des Lumières, du XVIIIe siècle, qui va imposer l'idée qu'une religion ne doit pas s'imposer à tout le monde et que toutes les religions peuvent se juxtaposer et donc qu'on peut avoir la liberté de conscience, la liberté religieuse. La Révolution va inscrire ça dans ses textes fondateurs. Et en 1793, on va avoir une accélération un changement de braquet autour de cette idée religieuse, puisqu'on va avoir la déchristianisation, c'est-à-dire le fait qu'on va déchristianiser la France et l'État. Et à partir de ce moment-là, on va avoir finalement une autre chose qui se met en place, c'est un anticléricalisme républicain. On va commencer à avoir des bouffeurs de curés, et justement, ça va être une manière de... Tout au long du 19e siècle, on va finalement avoir une opposition entre d'un côté des républicains plutôt bouffeurs de curés et de l'autre des royalistes qui s'appuient sur l'Église. Et tout ça va se cristalliser donc après la Commune, lorsque la Troisième République va s'installer. La première assemblée élue est une assemblée avec une vraie fausse démocratie monarchiste et une minorité républicaine quand même fournie. Et finalement, après avoir de concert écrasé les communards, les républicains et les royalistes et les bonapartistes qui restent dans l'Assemblée vont chercher à leur marque. Et là, chacun va repartir sur justement ses marques de fabrication, c'est-à-dire sur la Révolution, la Grande Révolution. Et donc les républicains vont se retourner vers la déchristianisation, l'anticléricalisme, qui va devenir une tradition républicaine, alors que les royalistes vont s'arc-bouter sur la religion et sur la religion catholique, évidemment, en particulier. Ça va durer jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et dans l'entre-deux-guerres, on va avoir un autre glissement qui va se faire à cause de l'apparition des bolcheviks en Russie. C'est-à-dire que la gauche va reprendre le flambeau de la déchristianisation et de l'anticléricalisme, la gauche républicaine, tandis que la droite, qui n'est plus tellement monarchiste, même s'il en reste quelques hurluberlus, eh bien, elle va se mettre du côté anti-laïque et du côté chrétien. Voilà. C'est un peu l'évolution, et il faudra attendre les années 70-80 pour avoir encore une nouvelle vague de ce débat avec la poussée islamiste.
Alors la poussée islamiste, c'est bien le point de départ du débat qu'on va avoir aujourd'hui peut-être, mais c'est quand même le thème de la laïcité, donc par rapport à toutes les religions, et nous allons discuter de cela, de ce sujet qui est peut-être intitulé « Est-ce que c'est laïque fondateur de la République, c'est laïque de gauche, existe-t-il encore ?» et « Quelle pensée amène-t-il » et on va en discuter avec notre invité Frédéric Vial, qui est essayiste et surtout dans des sujets d'économie ou de thèmes de société. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, on peut peut-être attaquer par les points classiques, ceux qu'on voit un peu rebattus dans la presse, mais on va essayer de leur donner un éclairage un peu différent. Alors, la première question, premier, on va dire, sujet rebattu et rébattu, mais on ne peut pas ne pas le citer, il y a des gens qui pensent que la laïcité, c'est une attaque contre le droit d'expression d'un citoyen ou d'un groupe de citoyens. Alors, est-ce qu'on peut arriver à combattre cette idée ou est-ce qu'elle est finalement vraie ?
Ben, en tous les cas, elle est exprimée par un certain nombre effectivement de religieux ou en tous les cas de ceux qui se font leurs alliés objectifs, qui font mine d'oublier que la neutralité qui fait partie, et ça a été dit en tout premier de la définition de la laïcité, la neutralité s'applique à l'État. Et s'applique à l'État parce que l'État est supposé, en tous les cas les agents de l'État, les institutions de l'État sont supposés servir également tout le monde. Mais par ailleurs, la liberté d'expression est complète et dans notre pays, il se trouve que depuis pas mal d'années maintenant, y compris la Cour de cassation, qui n'est quand même pas un repère de gens tout à fait aventureux, estime que la liberté d'expression va dans notre pays jusqu'au blasphème. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire du mal d'une religion, je dis bien, même si, en fait, ceux qui sont protégés, ce sont les personnes. On ne peut pas, dans notre droit, attaquer les gens, mais on peut très bien dire du mal des religions. Et donc cet amalgame qui est fait entre liberté d'expression, neutralité, etc., en réalité correspond à la volonté véritablement de certains religieux ou de ceux qui les soutiennent directement ou indirectement, ça a été dit, de soumettre les lois de la République aux leurs. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on peut accepter.
Alors, on peut justement poser la question, dire que ce droit d'expression, ce n'est pas la laïcité qui le menace, d'après ce que tu nous dis, mais c'est peut-être une autre forme de pensée qui n'est pas l'État, mais une pensée religieuse. Est-ce que c'est la pensée religieuse qui menace le droit d'expression aujourd'hui ? Est-ce que j'exagère avec ce mot ?
Non, bah ça, de toute façon, c'est ni d'aujourd'hui, ni d'hier, ni de demain, c'est de tout le temps. C'est-à-dire que par définition, à partir du moment où on a... la religion détient la vérité avec un grand V. Donc à partir de là, il y a deux solutions d'un point de vue social et politique. Soit on considère que cette vérité avec un grand V est la seule possible, et par définition, une vérité avec un grand V, il n'y en a qu'une possible. Et ça tombe bien, les religieux, quelle que soit la religion, estiment qu'ils ont la vérité. Alors il y a deux possibilités, soit on a des religieux, des gens qui sont croyants et qui sont très raisonnables et qui continuent de croire ce qu'ils ont à croire sans vouloir l'imposer aux autres, et ceux qui estiment avoir la ligne directe avec Dieu. Et si on laisse la possibilité de ceux qui estiment avoir la ligne directe avec Dieu de faire ce qu'ils veulent dans l'espace public, eh bien effectivement, ils limitent fortement le droit d'expression, puisqu'ils ne peuvent pas accepter qu'il existe des gens qui s'égarent en dehors de la vérité avec un grand V. On n'a pas d'un point de vue politique, on n'a pas en République en tous les cas, pas dans la République française, à s'égarer dans ce genre de débat. On n'a pas à prendre parti dans ce genre de débat. Il n'y a pas de vérité avec un grand V, il y a un certain nombre de croyances qui sont toutes acceptables, qui sont toutes respectables, et les croyants croient comme ils veulent dès lors qu'ils ne troublent pas l'ordre public. Et ça, d'ailleurs, c'est le tout petit billet qu'il y a eu au début rappelait que c'est vraiment une notion qui est finalement pas récente. Hein, le fait de ne pas troubler l'ordre public par ses opinions religieuses, on le trouve finalement aussi dès la Révolution de 1789. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose qui n'est pas tout à fait récent non plus et qui est bien établi maintenant.
Alors, un fait ou un réseau de faits remettent en cause ça et entre autres sortent des frontières par le biais de la presse. Alors parlons même d'avant Internet, en prenant l'exemple de Salman Rushdie, qui donc était à lui à l'origine né en Inde, engagé dans la défense des migrants, qui fait un ouvrage qui s'appelle donc Les versets sataniques, mais qui sont plutôt à la glorification poétique du Coran, même si le titre était un peu provocateur peut-être, mais le contenu, qui n'a peut-être pas été lu par grand monde sur la planète, et en tout cas pour ceux qui l'ont accusé, a été le point de départ de cette fameuse fatwa par des différents ayatollahs, et jusqu'à des points culminants où un des traducteurs de cet ouvrage a été assassiné, où Salman Rushdie s'est retrouvé protégé, enfermé, à ne plus pouvoir vivre normalement, jusqu'à même se retrouver acculé à s'excuser publiquement dans le cadre d'une procédure judiciaire internationale qui s'est finie à Londres et qui n'est pourtant pas remis dans une liberté possible. Alors, quel est le mécanisme ? Est-ce qu'on peut rentrer dans les détails de ce mécanisme-là ? Si on le schématise un petit peu, c'est-à-dire qu'au départ, un penseur religieux, bon là en l'occurrence certainement avec d'un intérêt local d'un État arabe fort, ça pourrait être un État de n'importe quel endroit du monde, lance un propos soi-disant religieux contre quelqu'un, et ça rentre par porosité des médias, et puis aujourd'hui d'Internet, jusqu'aux oreilles françaises. Est-ce que finalement c'est ça l'attaque du droit d'expression aujourd'hui ?
Oui, ben, on le voit très très clairement, il y a un terreau pour ce genre de choses, on le voit tout à fait clairement à travers, y compris maintenant les actes de terrorisme récents qui ont eu lieu, celui qui a choqué particulièrement, et il y avait toutes les raisons d'être véritablement très très choqué par ce qui s'est passé, par l'assassinat de Samuel Paty. C'est pas un assassinat qui tombe totalement par hasard, c'est l'assassinat d'un enseignant, c'est-à-dire l'assassinat de l'école républicaine, laïque, en tous les cas qui veut l'être, qui affirme l'être, à la suite d'un cours sur la liberté d'expression. Bon. Et comment est-ce que cet assassinat a eu lieu ? Effectivement, par quelqu'un qui probablement, enfin on ne le saura jamais, puisqu'il a été tué au cours de l'intervention de police, de quelqu'un qui très probablement n'a aucune formation religieuse particulière, mais qui simplement trouve légitime que le contre-discours à la République doive s'appliquer. Et c'est là un des terrains, si on est un républicain conséquent, c'est un des terrains auxquels il faut vraiment s'intéresser. C'est-à-dire que ça fait des années et des années maintenant qu'une succession de politiques antisociales ont créé des terreaux véritablement fertiles à de la rancœur, du déclassement, de la destruction de vie entière, qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes n'ont plus du tout confiance dans la République. C'est aussi cela, c'est pas cela seulement, mais c'est aussi cela qu'il s'agit, si on est un républicain conséquent, qu'il s'agit de rétablir. Et donc, dans la question de la défense de la laïcité, ou en tous les cas de son affirmation, il y a la question sociale. Et ça, c'est vraiment absolument incontournable. Pas seulement la question sociale, mais aussi la question sociale.
Alors, on va reparler beaucoup de la question sociale, mais là, je voulais qu'on revienne un peu sur ce mécanisme. On l'a eu aussi, évidemment, pour les caricatures de Mahomet qui ont mené en France à l'assassinat des dessinateurs et des auteurs de Charlie Hebdo, qui au départ était une défense de dessins parus au Danemark, et où il y a eu un lancement multilatéral en Inde, au Pakistan, de haine contre ces dessinateurs. Alors, rappelons qu'un groupuscule a mis la tête des dessinateurs à plus de 1 million de dollars, plus une voiture, par exemple, pour expliciter à quel point on dépasse même le terreau religieux, évidemment, tu l'as dit, en parlant de social. On peut aussi parler d'une autre anecdote qui est assez forte, qui est celle d'une adolescente qui a été accusée dans, je ne sais plus son nom, dans les réseaux sociaux, alors qu'elle avait simplement fait une vidéo un peu moqueuse, et où la quantité de mails, de SMS, de poids des réseaux sociaux lui sont tombés sur les épaules, et finalement, sans que beaucoup de monde vienne la défendre. Parce que autant un caricaturiste ou un auteur reçoit, ou un enseignant reçoit une pensée morale qui vient l'aider, même les ministres prennent la parole, hein, voilà. Pour les manifestations après l'attentat de Charlie Hebdo, c'était même tous les dirigeants de la planète, main dans la main, faisant une manif de gauchistes dans les rues de Paris. Finalement aussi, et peut-être même dans chacun de ces milieux sociaux défavorisés que tu évoquais, le poids social et le poids, on va dire, d'une certaine forme de pensée qui se dit religieuse tombe sur les épaules de la jeunesse. Est-ce que, sans encore revenir sur le social, mais est-ce que ce poids-là, la laïcité, pourrait s'exprimer, pourrait servir à tenter de le combattre ?
Oui, oui, tout à fait, parce que en tous les cas, ça fixe une boussole et ça fixe un certain nombre de limites. Et la boussole, c'est véritablement celle de dire que il n'y a pas de vérité qui soit défendue par l'État de manière plus absolue qu'une autre, et qu'aucune vérité, même religieuse, ne peut justifier qu'il y ait tout ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de harceler quelqu'un, le fait de le poursuivre, le fait de l'obliger à vivre sous protection policière. Et ce genre de violence qui est absolument inouïe et absolument insupportable. Pour le dire très clairement, et dans une des tribunes là, récentes que j'ai co-signée, on parle véritablement de religieux d'extrême droite, c'est-à-dire de gens qui ont, y compris, et bien entendu du côté des gens qui utilisent une vision rigoriste, dépassée, moyenâgeuse de l'islam, ils ont finalement des pratiques qui sont celles d'une certaine extrême droite. Et cela, enfin, au sens vraiment violent du terme. Et la laïcité, en ce qu'elle offre une possibilité pour tout le monde de respirer, de réfléchir par soi-même, de laisser le poids de sa détermination sociale ailleurs, et par exemple notamment laisser le poids de sa détermination sociale aux portes de l'école républicaine et laïque, ça c'est tout à fait important, ne plus être sous le joug de sa communauté, ça c'est quelque chose qui est susceptible d'ouvrir des espaces et d'ouvrir des esprits. Et à partir de là, on comprend d'ailleurs le caractère très très virulent d'un certain nombre d'attaques, parce que véritablement les religieux archaïques, enfin ceux qui utilisent la religion à des fins politiques, hein, bien entendu, c'est pas le cas de tous, mais ceux qui le font ne supportent pas que cet espace de liberté existe.
Alors on va prendre une bouffée de liberté en écoutant Mouloudji, qui nous raconte un peu qui il est. En fait, il se décrit comme athée, oh, grâce à Dieu.
Catholique par ma mère, musulman par mon père, un peu oh, grâce à Dieu. Athée, oh grâce à Dieu. Athée, oh grâce à Dieu.
La voix des sans voix a besoin de toi.
Radio FPP lance un crowdfunding pour s'acheter une nouvelle console de mixage pour ne plus entendre ça. Et plutôt entendre ça.
Vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel à 106.3, c'est l'heure de l'hebdo, le magazine de la.
Il faut aller sur rfpp.net, il y a le lien vers la cagnotte
ou sur notre page Hello Asso.
Hello Asso, soutenez la voix
des sans-voix.
Soutenez voix sans-voix là, FPP.
Bonsoir, vous êtes sur FPP, Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et avec sur notre invité, qui est toujours le bienvenu sur FPP bien sûr, Frédéric Vial, essayiste sur des sujets d'économie et là de société, vu qu'avec lui nous parlons de laïcité. Alors après avoir parlé de l'impact international, du poids du droit d'expression global, on va maintenant penser à peut-être un autre frein à la pensée et à l'expression, qu'on pourrait résumer en une phrase. C'est finalement, peut-on être de gauche aujourd'hui et dire du mal de l'islamisme sans paraître musulmanophobique ?
Eh bien ça, c'est une question qui est tout à fait importante, et comme on aime beaucoup à gauche, d'une manière générale, se diviser, se battre, etc. Mais là, il y a véritablement quelque chose qui est... qui est une opposition très 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 sérieuse et un débat très 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 sérieux, parce que on a d'un côté celles et ceux qui considèrent que la République est universelle, elle est laïque, elle est sociale, et de l'autre côté un certain nombre qui disent aussi, et leur position doit être entendue, et en tous les cas doit être connue à mon avis pour être combattue, qui considèrent que la réalité, c'est celle d'un certain racisme qui existe et qui ne serait pas question de nier, et que ce racisme découle du fait d'appartenir d'avoir des pratiques de religion musulmane. Et là où ceux qui disent ça, à mon avis, se trompent tout à fait lourdement, c'est que quand on parle de musulmanophobie, on reprend finalement un mot d'ordre qui est celui des frères musulmans, sans être très méchant, mais c'est quand même ça la réalité, et qui essentialise la question, c'est-à-dire qui ramène les gens qui sont d'apparence, qui sont associés à... et qui sont considérés comme étant des Arabes, à une religion supposée qui est la religion musulmane, et donc ça ne va pas du tout. Voilà, et cette dérive, on va dire, de la musulmanophobie comme étant taxée à chaque fois qu'on dit « mais l'islamisme est un problème », cette islamophobie dont on est taxé, ben là, il y a véritablement une dérive de la pensée qui finalement est assez grave, parce qu'elle ne permet pas, en tous les cas pour l'instant, d'avoir et de former un front uni contre finalement ce qui devrait nous rassembler, c'est-à-dire la détestation de celles et ceux qui veulent imposer leurs croyances à tous les autres. Voilà le problème, me semble-t-il, et il est quand même relativement sérieux.
Assez sérieux. Alors, assez sérieux, et assez sérieux pour qu'on se pose la question très pratique, c'est finalement Quand on veut dénoncer un amalgame que font souvent la droite entre musulmans terroristes, mais qu'on fait aussi sur les quartiers et les zones défavorisées, ghettoisées, où on parle de banditisme, de vandalisme, de vendeurs de drogue et autres aptitudes à basculer rapidement dans le grand banditisme jusqu'au terrorisme, où on fait un mélange global et qui statistiquement colle à une certaine réalité qu'on ne peut pas nier. Finalement, comment on peut dénoncer ces amalgames sans paraître non plus un angéliste qui dit que tout le monde est beau et tout le monde est gentil?
Oui, mais ça, personne d'un petit peu conscient de la réalité ne dira que tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil. On a effectivement des quartiers entiers, des parties entières du territoire qui ont été abandonnées, dans lesquelles les services publics n'existent plus, dans lesquelles les services publics de toutes sortes, aussi bien les services sociaux, que, y compris la police de proximité, n'existent plus, parce que ça coûte des sous. Et parce que les libéraux qui sont au pouvoir depuis très très longtemps, qu'ils se disent de droite ou qu'ils se disent de gauche, ont abandonné de fait un certain nombre de populations. Ce qui fait que là-dessus, sur cet abandon de fait, un certain nombre d'islamistes, c'est-à-dire de gens qui utilisent la religion à des fins politiques, prospèrent en disant « Vous voyez, la République vous abandonne ». Et là où il ne faut pas, il faut absolument d'un côté se garder de faire les amalgames de la droite qui de toute façon considère qu'à partir du moment où on a des quartiers pauvres, on a des quartiers dangereux. Tout à l'heure, on a commencé avec l'histoire, classe laborieuse, classe dangereuse, c'est quand même quelque chose qui a été formulé dès le 19e siècle et qui continue à perdurer sur ce côté-là de l'échiquier politique. Mais il faut se garder aussi de l'autre côté, d'avoir cette espèce d'essentialisation des problèmes et de dire que finalement on ne peut pas dire du mal des islamistes parce que l'islam est une identité qu'on ne pourrait pas attaquer. Donc ces deux amalgames en quelque sorte qu'il s'agit d'éviter, et je crois que là-dessus on a déjà la réponse en réalité. On a d'une part une réponse qui est une réponse sociale, c'est-à-dire du service public, de l'emploi, parce qu'il y a vraiment un terreau à assécher, un terreau, et il y a un mépris aussi à assécher, il y a un mépris social. Il faut en finir avec ces politiques absolument délétères. Et de l'autre côté, une pensée tout à fait claire, dans lequel il y a un certain nombre de limites extrêmement précises et qui sont celles qui sont fixées par les lois de la République sur lesquelles il ne devrait pas être possible de transiger ou d'avoir des aménagements, des petites lâchetés, etc. etc. Alors voilà, c'est se maintenir entre les deux qui est forcément pas facile parce que ça oblige à des positions qui sont un peu argumenté, un peu nuancé, et puis également à mener des politiques qui n'ont rien à voir avec celles qui sont menées depuis ces 40 dernières années, ce qui veut dire qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de travail.
Alors pour reprendre cette expression que tu as dit d'avoir les deux yeux ouverts, on la retrouve finalement chez plusieurs auteurs dans la presse, enfin d'auteurs et penseurs. Alors évidemment, un qui n'est peut-être au centre de l'échiquier politique, Raphaël Glucksmann, qui justement reprend cette expression en parlant que la gauche est parfois borgne à ne voir que l'aspect social, sans voir l'aspect finalement d'une dérive religieuse ou d'une dérive extrême qui s'exprime peut-être au nom de la religion, mais qui exprime certainement d'autres choses et auxquelles on ne veut pas comprendre l'influence qu'elle peut ressentir. Et puis de l'autre côté, évidemment, la gauche sociale traditionnelle, et qu'il faut donc avoir les deux yeux ouverts et ne pas avoir une gauche borgne. On la retrouve aussi dans d'autres textes, par exemple un journal qui s'appelle Respublica, qui est associé globalement au parti de gauche puis à la France insoumise, qui reprennent à peu près les mêmes expressions. Donc finalement, c'est un éveil nouveau, peut-être, ces deux yeux ouverts. Et ce qu'on peut essayer dans un deuxième temps de ce débat, c'est d'essayer de voir un peu les choses concrètes qui peuvent être mis en place sur ces deux yeux ouverts. Alors, le premier point, peut-être, celui dont on peut reparler, tu en as déjà parlé un peu, c'est ce partage des richesses, c'est une chose, hein, on peut l'appeler
si
de tout on veut, oui.
Oui, je crois qu'on a quand même sur ce sujet une expérience précieuse. On a en France des quantités de gens qui ont dû se réfugier en venant de Tunisie il y a quelques années et avant d'Algérie parce que justement ils ont été pris dans ce débat sur le social et la laïcité. Ils ont été broyés entre les religieux et le FLN en Algérie et entre les partis faussement démocratiques type Ennahda en Tunisie et la crise économique. Et en fait, ces gens, ils ont l'expérience qu'il nous faut pour ouvrir les deux yeux, justement. Parce que en plus, on ne pouvait pas leur faire le coup de l'islamophobie, puisqu'ils étaient de tradition, de culture musulmane. Et je pense que là, on a quelque chose, une valeur ajoutée de ces gens dans le débat de gauche, et qu'il faut absolument mettre ces gens en avant. Ils sont réfugiés en France, ils savent jusqu'où peut aller justement la rupture de laïcité, et jusqu'où ça peut nous mener à la dictature et à l'horreur d'une guerre civile. Et ces gens-là, ils savent exactement jusqu'où il ne faut pas aller.
Alors, ces gens-là, comme tu dis, issus de l'immigration, ils sont souvent dans des ghettos, même si parfois certains d'entre eux arrivaient en France avec un grand bagage universitaire, étaient des artistes, étaient des penseurs, mais se sont retrouvés parfois parqués dans ces ghettos. Et c'est sur ça que je voulais qu'on insiste finalement. On dit qu'un des moyens, un des deux yeux ouverts, c'est la lutte sociale. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer la fin des ghettos ? Alors, j'ai une formule qui m'a beaucoup plu, c'est finalement d'opposer aujourd'hui des imams, qu'on appelle souvent des imams de banlieue, je ne sais pas si cette expression a un grand sens, parce que finalement, dans les imams de banlieue, il y a des imams et des curés qui sont parfois très très à gauche et très très sociaux, mais il y a aussi évidemment des curés intégristes et des imams islamistes. Mais finalement, on a aussi des curés des beaux quartiers, mais on n'a pas d'imam des beaux quartiers. Alors, qu'est-ce que serait une fin de la ghettoisation ? Comment donner le droit de parole et surtout la parole dominante de ceux qui, dans ces quartiers, ne veulent pas veulent parler de laïcité ? Est-ce qu'il y aura un moyen de déghettoiser tout cela ?
Alors ça, c'est véritablement quelque chose qui s'inscrit en même temps dans le très long terme, mais dans le tellement long terme qu'en fait, il faut prendre immédiatement des mesures aussi de court terme qui permettent de faire la bascule. Parce que on est arrivé à un point de relégation sociale d'une partie importante de la population, qui n'est pas seulement celle des ghettos, mais d'une partie importante de la population. Le régime de capitalisme néolibéral dans lequel nous sommes et qui produit des effets délétères depuis pas mal d'années, la mondialisation financière, on peut, et marchande, telle que nous la connaissons, on peut la faire remonter à quasiment 40 ans. Ça a produit de telles conséquences de relégation d'une partie très importante des populations qu'il faudrait totalement changer cela et que ça ne va pas se faire en 10 minutes. Parce que ça veut dire non seulement avoir une politique d'intervention de la puissance publique dans l'économie, d'orientation de l'économie, une politique aussi qui revienne complètement sur le libre-échange. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des accords de libre-échange entre la Chine et le reste du monde, mais il y a aussi un accord qui vient d'être signé, là, il y a 3 jours, entre la Chine et l'Union européenne. On en est là. Bon, tout ça, ça produit des effets sociaux dévastateurs sur les territoires depuis tellement longtemps que redresser tout ça, c'est véritablement en soi un programme. C'est en soi un programme qui dépasse très largement la seule question de la laïcité. Mais évidemment, on se rend compte que ce changement de paradigme complet est d'une telle exigence qu'il faudra prendre des mesures tout de suite, maintenant, enfin sans attendre. Et parmi ces mesures, là, maintenant, tout de suite, sans attendre, il y a effectivement la question tout à fait cruciale du financement des religions, du contrôle du financement des religions. Et là-dessus, il y a une loi qui est en discussion actuellement. Il se trouve que j'ai pondu avec d'autres, j'ai signé en tous les cas une tribune là, très récemment aussi, qui est parue hier dans Le Monde, dans lequel on dit que oui, effectivement, la question du financement des religions, la formation des gens qui prêchent, des imams notamment, doit être regardée près, mais que quand on regarde le projet de loi, on est dans de la communication et pas dans des trucs qui sont réellement effectifs, parce que derrière, on ne veut pas déplaire, enfin ça c'est en tous les cas l'hypothèse qu'on pose, on ne veut pas déplaire à l'Arabie Saoudite qui est un bon client, qui nous achète tout un tas de babioles et qui nous en vend aussi beaucoup. Voilà, et ça aussi, ce sont des choses qui font partie, vous voyez, il y a des conséquences, y compris géopolitiques, à toutes ces choses-là. Mais véritablement, cette idée de dire qu'on va contrôler le financement des religions cultuelles et leur origine de manière un peu sérieuse, c'est tout à fait important. Mais aussi, il faudra mettre du service public scolaire, il faudra mettre des écoles, il faudra mettre des moyens dans l'éducation. Ça, c'est extrêmement important aussi. C'est quelques-unes des choses à faire tout de suite.
Alors, une des choses qui aujourd'hui a pris une ampleur folle, c'est au-delà des médias, les réseaux sociaux. On a vu le poids énorme pour l'assassinat de Samuel Paty sur quelques personnes certainement en faiblesse humaine, mais d'autres ont suivi. Et là, des masses de gens qui étaient dans la haine, sans absurde et certainement en l'encontre même des symboles de la République comme on l'a cité, mais c'était des SMS, c'était des tweets, parfois de l'argent qui vient de l'étranger avec des opinions différentes. Comment est-ce qu'on pourrait on ne peut pas interdire les idées qui viennent de l'étranger, on ne peut pas bloquer les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est un peu démuni par rapport à cette arrivée de mensonges, de haine qui arrive à travers les frontières ?
Bah là, franchement, je crois aussi qu'il est important de revenir aux principes. Les principes, c'est que les mensonges, la violence, etc., ça se combat, et ça se combat d'abord par l'intelligence. Je ne vois pas du tout comment on va réussir à interdire des tweets. Je ne vois pas du tout comment on va réussir à interdire des posts Facebook ou autres. Toute cette hystérisation qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux et qui est propre aux réseaux sociaux, l'idée de faire des algorithmes et de demander à Facebook, de demander à Twitter, etc., etc., de procéder à des censures, franchement, me paraît absurde et profondément contre-productive. Parce que, de toute façon, ces messages-là passeront par un autre canal, enfin. Je ne vois pas comment on va réussir de cette manière-là à sécher. En revanche, faire, quand il y a effectivement des atteintes lourdes, là on a parlé de harcèlement, etc., qu'il y ait effectivement des poursuites, qu'il y ait effectivement des sanctions, et que celles et ceux qui se comportent de cette manière-là sachent que ça leur coûte cher, ça c'est quelque chose qui peut être fait. Mais je ne vois pas comment on va pouvoir, par l'opération du Saint-Esprit, je ne vois pas du tout comment on régule les réseaux sociaux, là je ne le vois pas, hein. Le Saint-Esprit au minimum.
Ah, il faut en évoquer à des hautes sphères religieuses. Donc.
Oui, oui.
Non, mais
et alors finalement...
Par exemple, sur l'affaire Samuel Paty, on avait quelque chose d'absolument atroce et d'absolument symbolique. On avait dans les 4 ou 5 jours qui ont précédé la mort de ce collègue, on a eu 27 000 personnes qui ont envoyé des tweets et des trucs haineux sur Internet. Je pense que le rôle d'une république, c'est par exemple, dans un cas comme celui-là, ne pas se dire on se limite aux 10 premiers, mais on va se donner les moyens de punir les 27 000. Parce que justement, s'il y en a 4 de punis sur 27 000, bah la fois suivante, il y en aura 50 000. Parce qu'ils se disent, sur la masse, j'ai peu de chance de me faire gauler. Tandis que si on arrive, à, une fois de temps en temps, au moins, sur des cas particulièrement lourds, à faire un nettoyage complet, c'est un petit peu différent au niveau de la charge symbolique.
Je suis assez d'accord avec ça. Hein. C'est-à-dire que, de fait, il faut faire ce genre de choses et le faire savoir pour dissuader par la suite. C'est vraiment très important, ce genre de choses-là. Mais alors, derrière, ça veut dire aussi, et on revient à mon propos initial que j'ai depuis tout à l'heure, ça veut dire aussi avoir des services publics qui ressemblent à quelque chose et non pas avoir trois gendarmes derrière un écran qui essayent de se battre. Voyez. Et on retombe toujours sur les mêmes idées, c'est-à-dire finalement sur le fait que on peut pas faire de déficit, on ne doit pas faire de déficit, une dette ça se rembourse, attention l'Union européenne nous empêche de mener les politiques de déficit ou autres qu'on aurait l'intention de mener. Enfin, vous voyez, ça a des conséquences aussi tout à fait importantes. Nous sommes aujourd'hui au bout, je crois, de ce modèle, contre-modèle néolibéral qui, on le voit, a aussi des conséquences en termes de destruction de l'État et donc des principes comme celui de la laïcité que peut défendre l'État.
Je crois qu'on a, bien fait le tour du sujet, mais j'aurais quand même envie d'asticoter avec deux, trois petits points précis qu'on retrouve à longueur d'article peut-être, mais finalement, est-ce que être de gauche aujourd'hui, c'est de finalement vouloir un service militaire qui permet de brasser les populations? Est-ce que vouloir être de gauche, c'est de dire le voile, chacun fait ce qu'il veut, mais moi en tant que personne de gauche, je trouve que c'est une atteinte au féminisme le plus clair et le plus fort qu'on ait eu sur ces 20 dernières années? Est-ce que on va dire que finalement, le droit à l'expression d'un enfant qui dit t'as pas le droit de dire que Dieu n'existe pas, on va faire en sorte qu'il change d'avis. Est-ce que tout ça, c'est cette pensée de gauche, ces exemples-là, ou est-ce que j'ai fait un amalgame là encore une fois?
Très intelligent l'amalgame d'ailleurs, parce que pareil, quand ces histoires de voile par exemple, c'est quelque chose qui nous agite, énormément. Si on regarde ce principe de laïcité tel qu'effectivement il est défini...
Alors qu'il suffirait de passer à la vapeur.
Voilà, mais ça je n'irai pas jusque-là. Tout à l'heure, là, on a dit neutralité et neutralité de l'État. Donc là, sur le voile, il y a quelque chose de très clair qui est neutralité de l'État. Donc là-dessus... Ça veut dire aussi que, ma foi, s'il y a des gens qui veulent se déguiser de telle ou telle manière, il y a aussi quelque chose qui relève de la sphère du privé et qui fait qu'on peut difficilement empêcher qu'ils s'habillent de telle ou telle façon. En revanche, le débat là qu'il y a aujourd'hui sur le voilement des fillettes, c'est un débat qui est certes tout à fait passionnant, comme souvent les débats agités médiatiquement et récupérés médiatiquement, mais déjà on a les moyens de lutter contre cette situation-là. Déjà on a un article qui est, je crois, de mémoire 375, je ne sais plus exactement, du Code civil, qui donne au juge pour enfants la possibilité d'interdire qu'une petite fille mineure soit voilée parce que c'est contraire à son développement personnel. Donc on a déjà des choses, des dispositions qui existent dans la loi, et déjà on pourrait commencer à les appliquer sans constamment être en train d'essayer de trouver des arrangements pour des motifs électoralistes ou de trouver des excuses à un certain nombre de pratiques qui sont inacceptables. Encore une fois.
Alors ça sera un peu l'exemple final, parce que nous arrivons au terme de l'émission. Il y avait certainement d'autres points sur lesquels on aurait pu insister, mais celui-là, un petit peu symbolique de dire que la laïcité peut être utilisée même dans un contexte d'apparence religieuse pour un enfant. C'est peut-être un petit peu le symbole que cette laïcité est encore bien vivante. Alors on arrête là, on dit merci à tous les intervenants. Bien sûr, merci à notre invité Frédéric Vial.
Merci
à Jean-Marc pour ses interventions, Gaël qui a été un soutien un peu taiseux aujourd'hui, et surtout à Claude à la technique. Et pour terminer, nous écoutons Léo Ferré qui lui remercie le Dieu Tout-Puissant. Non, pardon, j'ai mal lu. Il remercie Thank You, Satan.
la flamme que tu allumes au creux d'un lit pauvre rupin, pour le plaisir qui s'y consume dans la toile ou dans le satin, pour les enfants que tu ranimes au fond des dortoirs chérubins, pour leur pétales.